voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Partisan de l'apiculture douce, Maurice Chaudière vit en Ardèche et conçoit depuis une quinzaine d'années des ruches en terre. Elles permettent une récolte du miel respectueuse des abeilles à son image. Rencontre avec Maurice, un homme qui m'a profondément touché. Donc Maurice, là je suis chez vous, je vais peut-être d'abord commencer par vous demander de vous présenter. Qui est Maurice ?
Ben, je suis moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Depuis mon enfance, je m'intéresse à la nature dans toutes ses formes, en particulier à l'argile, puisque je dois avoir de l'imagination. Et tout petit, j'ai commencé à faire des tas de choses en argile. Et je n'ai jamais cessé, jusqu'à 91 ans, de m'intéresser à l'argile. Alors maintenant, je manipule plus tellement, mais j'en parle, j'écris. De la céramique à l'éducation populaire. Et puis, après un échec au baccalauréat, je suis revenu à mes amours, c'est-à-dire à l'argile et à l'abeille. Et je n'en sors pas, j'y suis toujours. Donc je sais la prendre dans le champ voisin, qui est assez argileux, la laver, la tamiser, etc., et en faire une pâte convenable à la poterie. Alors une fois que j'ai cette pâte, ben je me libère, j'obéis à mes fantasmes. Et alors j'en ai un particulier, c'est la fécondité. Je fais une ruche qui ressemble à la fois à un œuf ou à un ventre de femme enceinte, et là-dedans je mets des abeilles, et elles me font du miel. Et je le récolte, bon après je vous parlerai un peu de la méthode, je le récolte par insolation simplement. Un miel parfait, il n'y a pas de couvain, il n'y a pas... Voilà, donc j'arrive à avoir une coupe pleine de miel qu'on peut mettre sur la table. Et... Voilà, donc j'ai éliminé complètement tous les artifices de l'apiculture industrielle. Pas de cadre, pas de caisse, pas de cire gaufrée, pas de fil de fer, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas besoin d'extracteur. J'ai l'argile, le soleil et l'eau. Et avec ça, je fais du miel. Alors, ça paraît comme ça illusoire ou un peu fantasmatique. Mais je le prouve. Donc, j'ai fait un film là-dessus. Et on voit très bien ramasser l'argile que je dispute à des sangliers en Espagne et puis faire une poterie, bon, plus ou moins en forme d'œuf, quoi. Et puis après, mettre les abeilles à pleine main parce que je connais assez les abeilles pour qu'elles ne me piquent pas. Je sais quand elles vont piquer, je veux dire. Mais donc, je les manipule sans masque et sans gants. Et puis, alors, on voit tout ça. Puis finalement, j'arrive à montrer une coupe pleine de miel. Voilà.
Pourquoi sortir du côté industriel de la ruche ?
Ah oui, mais ça, je peux vous dire. Moi, j'ai une véritable phobie de la production industrielle. Pour moi, ce qu'on appelle le progrès passe par la production industrielle. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est singulier et non pas le pluriel. Or, la société industrielle, elle fait son fric avec le pluriel, avec la multiplication du singulier. D'abord, on identifie l'intérêt du singulier. Vous et moi, nous sommes singuliers. Mais pour faire du fric, il faut multiplier l'intérêt du singulier. Et alors, l'industrie est là. Alors maintenant, vous prenez n'importe quoi, n'importe quel pot de confiture, il n'est pas fait par la grand-mère, il est fait par l'industrie, etc. Et c'est tout comme ça, tout. Vous allez acheter une tranche de jambon, vous le prenez, n'importe quoi, un poulet, deux batteries, tout ça, c'est de l'industrie. Alors moi, je préfère élever mes poulets dans la garrigue et les pigeons comme ça, et les abeilles. Alors l'abeille, c'est magnifique parce qu'elle prospecte 30 hectares autour de l'homme. Et elle ramène l'essentiel. Elle ramène des choses qui ont toujours intéressé l'homme depuis la préhistoire. Il y a une parenté, une affinité dans la prédation, celle de l'abeille et celle de l'homme. Alors l'homme, comme c'est le parasite des parasites, moi je parasite les abeilles. Mais comme je les aime, je les respecte et j'essaie de ne pas les tuer en les faisant produire. Ce que ne fait pas fatalement l'apiculture. Parce que une des grandes causes de la destruction des abeilles, c'est aussi l'apiculture.
On va en parler de ça, mais je vais quand même aller plus doucement. Cette notion de progrès qui a créé l'industrialisation, où aujourd'hui on s'est mis à exploiter complètement le vivant pour le vendre finalement, pour de l'argent, pour ce système qui est capitaliste. Maurice, j'ai envie de profiter de votre sagesse. Vous avez 91 ans aujourd'hui, donc vous avez traversé beaucoup de choses. J'imagine qu'il y a 60, 70 ans, 80 ans, le progrès n'était pas ce qu'il l'était aujourd'hui et cette industrialisation n'était pas la même qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé ce qu'on appelle le progrès technique. On a investi toute notre intelligence dans la multiplication. Parce qu'on a compris que c'est par c'est par la multiplication qu'on peut avoir une illusion de puissance. Et donc, cette puissance se manifeste de nos jours par la possession de l'argent. C'est ça la puissance à notre époque, dans notre société.
Mais vous parlez d'illusion.
Oui. Et c'est une illusion, parce que pour moi, la culture, qui est donc la technoculture et qui amène à l'industrie, elle ne peut pas se passer de la nature. C'est ma nature qui me permet de vous parler de la culture. L'inverse, ça n'existe pas. La culture ne peut pas inventer la nature. Or, moi, je suis, je ne sais pas si je suis puriste ou naïf, mais ce que j'aime, c'est la nature. Pour moi, la nature est synonyme à la fois de beauté, d'intégrité, de la nature que l'homme n'a pas touchée. Malheureusement, il la touche, et il la transforme, et il la déforme, et il la prostitue. Le mot est tout à fait intentionnel hein, dans ma bouche. Et donc, moi, j'aime l'intégrité de la nature. Je développe cet intérêt particulier, que certains vont trouver régressif, mais pour moi, je n'ai pas du tout l'impression de rétrograder mon comportement, au contraire. Je pense que l'avenir, c'est la nature. En ce moment, on essaie de nous convaincre du contraire. L'industrie, elle fonce. Il n'y a qu'à voir, grâce à l'informatique, en plus, elle prend une vitesse vertigineuse dans la multiplication. Tout est multiplié. Moi, je pense qu'il faut prendre ce mouvement-là à rebours.
Mais pourquoi l'homme s'est tout doucement désintéressé ou déconnecté de la nature ? Parce que peut-être qu'à 70-80 ans, quand vous étiez enfant, il y avait un lien qui était beaucoup plus fort à l'environnement, à la nature, qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les populations qui vivent dans les villes.
Ben c'est le culte du rendement. C'est ça qui a fait. Donc, quand il trouve un intérêt à la nature, quand il a jugé tout à fait passionnant, il veut le multiplier, il veut le rendement. Or, pour arriver au rendement, il a trouvé l'intercession de la machine et donc de l'industrie. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, on s'achemine ou on est déjà dans une civilisation des ersatz, du faux produit. On imagine la qualité d'une chose et on limite. Moi, j'ai été traumatisé par ça il y a très très longtemps. Un jour, il y avait un Allemand à la maison, c'était avant la guerre de 40. Et on l'avait invité, et il avait apporté du miel. Mais le miel, ce n'était pas du miel, c'était un ersatz de miel. Et comme moi, j'avais déjà le goût des ruches, j'ai bien compris. Alors c'était un mélange, il y avait de l'acide formique, je ne sais pas quoi, de sucre, de tas de trucs, pour que ça ait tout à fait l'apparence du miel, mais ça n'avait pas le goût, ça n'avait pas l'authenticité du miel. Et ça a été une leçon. Et donc je me suis toujours défié des ersatz.
Mais Maurice, comment ça se fait que vous avez eu cette sagesse ou cette présence d'esprit de ne pas vouloir suivre le modèle imposé ? Donc quand on parlait du progrès, du développement économique, la plupart des gens ont fait un tournant et se sont engouffrés dans cette multiplication, comme vous disiez. Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté en retrait de ça ?
C'est tout simple, c'est que je suis de nature passionnée. Or ma passion, c'est la nature. Alors si c'est la nature, ça m'écarte de toute autre chose. Et ça me rend peut-être excessif aussi.
Quand on parle de nature, si on devait donner une définition ou votre définition de ce qu'est la nature ?
La nature, c'est notre mère. C'est tout. Elle nous a fait, mais on n'a pas beaucoup de respect pour elle actuellement. Et on l'habille d'une drôle de façon, on lui colle des tas d'attributs et on la déforme. Voilà, on n'a pas de respect, on n'a pas, à notre époque surtout, on n'a pas un très grand respect de la nature. Si, on voit bien tous les écolos et tout ça qui ont pris conscience. Je ne suis pas seul, évidemment, à réagir comme je réagis. Mais la force de l'industrie, de la puissance économique, balaye tout ça. Et le résultat, c'est que jusqu'aux océans sont pollués par les déchets de notre industrie. Tout est pollué. Ici, vous voyez, regardez, vous pouvez regarder, il n'y a pas une mouche. Avant, il y avait plein de mouches ici. Je suis dans une ferme ici. Il n'y en a pas une seule. Les oiseaux, n'en parlons pas, il n'y en a plus. Et tout est comme ça. Et les abeilles crèvent. Les miennes aussi, elles crèvent. Mais je fais confiance, moi, quand même, à ce qui nous reste de nature. Et si vous voulez, de façon tout à fait symbolique, sur mes ruches mortes, il y a un essaim qui est venu, un essaim sauvage. Les abeilles, elles viennent vers moi.
Mais donc vous, sur une échelle humaine, on parlait de mouches, on parlait d'insectes ou d'oiseaux, sur une échelle humaine, vous avez vu la différence, vous avez vu cette biodiversité lentement disparaître.
Oui, on n'a jamais eu autant de médicaments. On en invente toujours, comme on invente les produits de consommation. C'est un produit de consommation, le médicament. Donc, c'est incroyable. La diversité des drogues qu'on administre tous les jours. Alors, il y en a dans la nourriture qu'on n'a même pas vue, puis il y en a d'autres. On a besoin même de calmants et de somnifères aussi, parce que tous ces comportements nous dérèglent. Alors, on voudrait retrouver une règle qui est celle de la nature. Et pour ça, on y va par toutes sortes d'artifices, de plus en plus d'artifices. Alors pour moi, c'est un cercle vicieux, quoi. Le rapport entre nature et culture, c'est devenu un cercle vicieux. Et j'essaie de m'en tirer, mais ça m'est pas facile.
Mais ce clivage est en train de s'agrandir. Le fossé entre l'homme et la nature ne cesse de s'agrandir.
Oui, c'est ça. On est plein de prouesses techniques. Mais la nature est en elle-même une prouesse. Et ça, il y a peu de gens qui le perçoivent, je crois. Sans quoi ça nous imposerait le respect le plus grand. Elle sait tout faire, puisqu'elle nous a fait. Et astucieux comme on est, c'est elle qui nous a fait. Et donc, c'est elle, comme j'ai dit, c'est la mère de toute chose. On ne peut pas concevoir autre chose. Quand je vous parle, je suis nature. Aussi culture. Hélas, je dirais, ou tant pis. Mais parce que la culture, d'une certaine façon, comme tout le monde, me dégrade. Le temps que je passe devant l'ordinateur, ça me tue les yeux. Voilà, c'est une image. Mais je ne peux pas me passer de l'ordinateur, parce que maintenant, je suis tellement mal foutu que mon seul sport, ma seule activité, c'est l'écriture. Alors j'écris, mais je passe toute la journée devant l'ordinateur, jusqu'à ce que je me sente fatigué. Alors j'essaie de dormir, de me coucher. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le sommeil, je rejoins la nature. Il est naturel, le sommeil. Alors voilà, j'oscille toujours entre ces deux choses, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Si vous voulez, pour tout vous dire, je suis disposé à vous raconter ma vie, là. Après un échec au baccalauréat, j'étais dans le cirage, complètement. Ma famille, tout le monde, m'en voulait de ne pas poursuivre. Mais je n'ai pas voulu poursuivre. Et je me suis trouvé sans métier, sans rien. Et puis je me suis rappelé que j'avais quand même le goût de la nature, des abeilles, et que même au lycée, j'avais eu un prix spécial en sciences naturelles. Et donc je suis revenu aux abeilles. Et je me suis dit, mais si j'arrive à produire du miel, ben j'aurai peut-être un métier. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'avais rien, j'ai fait des ruches en terre. Et là, je crois au miracle. C'est que le jour où j'ai fait cette ruche en terre, la première fois, j'ai mis un essaim dedans et je me suis dit, mais les abeilles mettent toujours le miel au-dessus du couvain. Or, dans cette cloche, quand je la soulevais, je voyais le couvain en bas et le miel était en haut dans la cloche et je ne pouvais pas l'atteindre. Alors, comme je voulais le miel, j'ai culbuté la ruche, je l'ai mise à l'envers. Alors là, tous les gens criaient au fou, au massacre, au blasphème, ben je mets la ruche à l'envers, je la culbute. Et à ce moment-là, les abeilles ne peuvent pas supporter que leur miel soit en dessous du couvain. Alors je fais ça quand ma cloche d'argile est pleine, jusqu'en bas. Et quand je la retourne, les abeilles veulent mettre le miel au-dessus du couvain, mais elles ne peuvent pas le mettre ailleurs que dans la hausse que je place sur cette forme. C'est-à-dire que je ferme l'œuf, et pas n'importe comment. Je le ferme avec une forme complémentaire, qui est celle très exactement que découpe le poussin quand il sort de l'œuf. Quand il sort de l'œuf, il découpe l'œuf au niveau du plus grand cercle. Et donc, il y a deux volumes différents dans l'œuf et harmoniques. Il y en a un profond, qui est celui où évolue le fœtus, et l'autre où il y a la chambre à air. Moi, j'ai fait la même chose, mais en terre, et très grand, enfin très grand. Et donc, les abeilles ont mis le miel à l'endroit où je voulais qu'elles le mettent, c'est-à-dire dans la hausse. Et entre les deux, j'ai mis une grille qui empêchait la reine de venir pondre dans cette partie, ce qui fait que j'avais une coupe superbe, pleine de miel, sans cadre, sans fil de fer, sans sirop frais, sans rien. Le miel en cire vierge, c'est le luxe, ça. Et voilà, et avec rien. Alors c'est un peu ce que j'essaie, puisque j'étais dans l'éducation populaire. Et donc, pendant des années, ce qui m'a permis de vivre, finalement, c'était l'éducation populaire. Eh bien, j'essaie de prouver qu'on pourrait vivre autrement, c'est-à-dire qu'on pourrait produire tout en respectant la nature. Ben, je le prouve au moins avec l'apiculture. Mais je le prouve d'une façon déjà un peu moins pure, si j'ose dire, en greffant. Mais je greffe pas n'importe quoi, je greffe les arbres sauvages. Et donc je greffe des arbres dont on n'a jamais touché aux racines, des écotypes dans leur écosystème, ce qui fait que j'interviens quand même avec beaucoup de modération. Mais d'une façon très spectaculaire, puisque là, je vous dis, je peux ramasser des pêches sur un prunelier ou plein de choses comme ça. Ou là, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expériences. Sur un tabac, par exemple, je ramasse des tomates, etc. Des tas de choses qui paraissent invraisemblables et qui ont intéressé la télé et toutes sortes de trucs. Tous les gens viennent voir un peu ce côté miraculeux de la greffe. Et voilà, la greffe, c'est quoi la greffe ? C'est un viol de la nature par la culture.
Je ne vais pas approfondir sur la greffe, je vais revenir à l'apiculture. Et surtout, ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en ayant une valeur, donc celle de la nature, celle de ce respect de la nature, vous ayez réussi à développer un modèle économique, donc à vivre d'une passion. C'est possible aujourd'hui sans être dépendant de subventions, de PAC ou de tout ce qui est mis en place pour les agriculteurs.
Oui, j'ai vécu jusqu'à présent d'un métier qui était quand même l'éducation. Mais l'éducation, justement, affectée à ce rapport, en particulier entre la nature et la culture. Et donc, j'étais conseiller d'art plastique, j'ai surtout parlé de ça. Mais après la retraite, je suis revenu beaucoup plus aux abeilles et à la nature, et j'essaie de vivre dans un relatif respect de la nature, voilà.
Les abeilles, j'ai avec moi un spécialiste, Maurice, des abeilles. Qu'est-ce que c'est qu'une abeille? Comment ça fonctionne? Donc, je sais juste que c'est un hyménoptère, mais parlez-moi un petit peu de l'abeille.
Ah oui. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que l'abeille n'est pas un individu. L'individu, c'est la grappe. Une abeille toute seule, elle meurt. Elle ne peut pas vivre. Une reine d'abeilles non plus, elle ne peut pas vivre sans les abeilles.
Homme aussi, un homme tout seul ne peut pas vivre. On est complètement interdépendant de celui qui va nous faire une chemise, celui qui va nous faire une voiture, celui qui va chercher la nourriture.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Un homme seul, il peut vivre. Il peut vivre sans le harnais de la culture. Il peut vivre dans la proximité de la nature, comme je suppose les pygmées. Encore que maintenant, ils aient des téléphones dans la poche, je pense. Mais l'homme, il est fait pour vivre de la nature, il n'est pas fait pour vivre de la culture. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ne peut pas vivre sans la culture. Je suis d'accord avec vous, parce que je suis complètement dégradé. Je suis déformé par la culture, comme tout le monde. L'homme vierge, on ne sait pas ce que c'est. Un homme sauvage, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas, un homme sauvage. Dès qu'il est homme, il met en branle la culture. C'est la culture qui fait l'homme, dès la préhistoire. Dès qu'il est homme, il touche à l'argile, il transforme. Et dès qu'il est homme, il a le goût du simulacre. Et ce goût du simulacre, on l'a à un point incroyable à notre époque. On vit de simulacre. Et on en oublie l'intégrité de la nature. On lui préfère son simulacre. Il n'y a qu'à voir n'importe quoi, n'importe quel objet qu'on achète. La nourriture, j'en parle pas. Quand vous prenez, je vous ai dit, un poulet ou n'importe quoi, c'est... c'est un simulacre de ce qu'est l'origine, l'original.
Et pour en revenir à l'abeille ?
Pour en revenir à l'abeille, je vous dis, elle n'est pas un individu. L'individu, c'est la grappe. Et donc, l'intérêt, c'est de ménager la cohérence de la grappe. Or, les apiculteurs commencent par les mettre dans une caisse avec des cadres qui peuvent extraire. C'est une véritable éventration. On enlève le toit, le plafond de la ruche. Or, les abeilles ont les fondations au plafond, pas en bas comme nous, en l'air. Et donc, quand on ouvre une ruche et qu'on enlève le plafond, on la décapite. C'est déjà un viol, si vous voulez. Et alors moi, quand je mets une ruche en terre et que je la retourne, je ne la décapite pas. Je peux la regarder à l'envers, bon, c'est sûrement assez violent, mais je préserve l'intégrité de la grappe. Je ne peux pas altérer l'ordre de la grappe. Les abeilles vivent en grappe. Il y a des gens qui... Toute une théorie, il y a des gens qui ont écrit, un certain Muller qui ont écrit sur la grappe. Mais un essaim, c'est le moment où les abeilles sortent dans la ruche pour créer une nouvelle colonie. Alors, ce n'est pas la reine qui décide, hein, comme beaucoup de gens le croient. Ça correspond à une maturité sexuelle de la grappe. La grappe évolue comme une amibe qui se divise pour se multiplier. La colonie d'abeilles se divise et la partie qui s'en va avec la reine pondeuse. Et donc, elle laisse dans la ruche la ponte, les élèves de cette reine, les cellules royales qui vont faire de nouvelles reines, qui vont s'entretuer pour qu'il n'y en ait qu'une seule et puis reconstituer une colonie. Voilà, en gros, le processus. Donc, un essaim, c'est bien une grappe d'abeilles, mais avec une reine au milieu. Tandis que ce qu'on appelle grappe d'abeilles n'a pas fatalement une reine. On peut acheter des grappes d'abeilles. Parce que tout seul, on ne peut rien faire d'une abeille seule. Il faut le nombre. Et il faut qu'il y en ait pas mal pour qu'elle puisse se chauffer. Si la grappe est trop petite, elle ne peut pas survivre. Et elle survit comment ? Grâce à la chaleur, parce que finalement, c'est un animal à sang chaud, l'abeille. Elle a besoin de chaleur. Et pour produire cette chaleur, elle mange du miel. Et le miel qui n'est pas mangé dans la ruche sert de volant thermique, sert de bouillotte, si vous voulez, qui lui permet de couver le couvain. Vous voyez le pléonase ? Elle couve. Une ruche, c'est une couveuse permanente. Et pour couver, il lui faut digérer du sucre qui lui produit les calories. Donc, elle a tout un art de stocker ce sucre qui vient du jus des fleurs. Mais le jus des fleurs, il fermenterait très vite parce qu'il y a beaucoup d'eau et peu de sucre. Donc, elles savent concentrer ce nectar, mais pas seulement le concentrer. Elles savent l'acidifier et le stabiliser. Et quand elles l'ont stabilisé, elles le stockent dans la ruche au-dessus du couvain pour couver le couvain. Voilà comment fonctionne une ruche, quoi.
Mais quand on va prendre le miel à une abeille, donc quelque part, on lui vole une partie de sa production, de ce qu'elle a fait, c'est pas sympa.
Oui, oui, on lui vole sa production. Et si on lui enlève tout le miel, on va la refroidir et elle va crever si elle n'a pas assez de nourriture pour passer l'hiver, pour se chauffer. Et son combustible, c'est le miel. Alors, si on enlève, alors l'homme est très astucieux, évidemment. Il lui prend le miel et il remplace le miel par du sucre. Seulement, vous pensez bien qu'entre un sirop de sucre et le miel, il y a une grande différence. Le miel est infiniment complexe, tandis que le sirop de sucre, il est totalement industriel d'ailleurs. Et donc, les abeilles, si de génération en génération, les abeilles sont obligées de se nourrir en hiver pour se chauffer de sucre, il y a une dégradation de l'espèce. Il y a une fragilité, une fragilisation. Et donc... Moi, je pense qu'il faut laisser le miel aux abeilles et en prendre. Elles en font beaucoup, alors on peut en prendre une partie sans les tuer. Mais tout est là, tout est dans la mesure.
C'est pour ça que vous disiez avant que l'apiculture a aussi un effet sur la disparition des espèces, sur la disparition de l'abeille, parce qu'on entretient ce régime alimentaire qui va affaiblir l'organisme de l'abeille à travers ce sucre.
Oui, bien sûr. Mais c'est comme vous-même, hein. Si on vous nourrissait qu'avec... des sirops ou que des ersatz, vous finiriez par manquer de vitamines et par manquer de toutes sortes de choses. Et la nature se nourrit de la nature. Et on est tellement déformé par la culture qui nous donne une vanité. On a la vanité de la culture. Et on en oublie que même pour porter cette vanité, il nous faut être vivant, c'est-à-dire être nature. On n'en finit pas. C'est très compliqué, le rapport de l'homme. L'homme, par rapport à toutes les autres créatures, est d'une complexité incroyable, parce qu'il est fait des deux. On ne peut pas dissocier en lui la nature de la culture.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
On a tous en tête cette phrase de, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais on a tous en tête cette phrase de Einstein qui dit que si l'abeille disparaît, c'est l'humanité tout entière qui va disparaître en quelques années.
Ben, il avait une très juste intuition, ou beaucoup d'observations et de philosophie. Et c'est évident. Mais nous sommes en train de perdre les abeilles. Nous sommes dans une situation tragique de l'évolution de notre espèce. Et de tous les côtés, elles crèvent, les abeilles. De tous les côtés, je ne sais pas, il y a des gens qui perdent 60% de leurs ruches. C'est l'agriculture industrielle. C'est parfaitement désherbé, c'est parfaitement désinsectisé, c'est parfait. C'est propre, soi-disant propre. Moi, je trouve que c'est horriblement sale, mais les gens ont l'impression que c'est très propre. En tout cas, c'est très productif. Mais si tout est comme ça, si on met comme ça la planète en coupe réglée, en la poussant à produire de façon à ce point abusif, ben on tue la nature. La nature, c'est la diversité.
Et c'est cette diversité qui va permettre de trouver au sein d'un écosystème un équilibre.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'essaie d'observer le plus possible ça. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé à 91 ans. Juste à côté, là, dans ma véranda, c'est ma pharmacie. Je me nourris de ce que je cultive. Et j'ai très peu recours aux médicaments et je me nourris de quantité de choses très, très énergétiques et très innocentes en même temps. Alors moi, je les parasite, je suis le parasite, bien sûr. Mais j'essaie de me conforter comme ça. À 200 mètres de chez moi, c'est plus l'oasis. C'est l'agriculture industrielle. Vous avez des vignes, il n'y a pas une seule herbe dans ces vignes, elles sont désherbées, il y a même de l'arrosage artificiel de la vigne. Et de l'autre côté, il y a des champs, mais qui sont rasés, ils sont propres. Propres au sens industriel du terme.
À vous entendre, on a vraiment l'impression que l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis.
Ah oui, mais vous pouvez pas mieux dire. C'est exactement ça, nous en sommes là. Et en plus, on est pressé. On dirait que nous sommes pressés d'en finir. On accélère, ça sera une rapidité incroyable. L'évolution pernicieuse que vous évoquez, elle est dans une activité, elle se précipite. Alors, heureusement, elle génère en même temps des prises de conscience de cette fin prochaine. Et donc, il y a pas mal de gens, il n'y a pas que les écolos, il y a toutes sortes de gens. Il suffit d'écouter la radio tous les jours. On entend des émissions sur des gens qui veulent protéger ceci, cela, qui vous parlent du bio, qui vous parlent de nourriture propre. Oui, mais c'est quoi? C'est infime comparé à la production industrielle. Ce qu'on a tous les jours et qu'on a à gogo tout le temps, c'est produit industriellement. C'est très rare. Moi-même, j'achète des choses que je jette parce que je trouve qu'elles n'ont aucun goût. Mais parce que je ne peux pas faire autrement. J'envoie quelqu'un au marché qui me ramène des tomates qui n'ont pas de goût, qui me ramène... Alors, il faudrait aller où? Alors, la seule issue, c'est de les produire moi-même. Et donc, j'ai un petit jardin et j'essaie de produire les choses dont je peux me régaler. Mais tout le reste, presque tout ce que j'achète, que ce soit du beurre, que ce soit du lait, que ce soit, c'est produit d'une façon épouvantable. C'est-à-dire qu'on vit comme Tartuffe. On ne veut pas voir ce saint. C'est-à-dire qu'on veut l'illusion, on ne veut pas voir la réalité. La réalité, c'est la dégradation de la planète. Ça, c'est une évidence flagrante, partout, jusqu'au fond des mers.
Un conseil pour terminer cette émission? Quelque chose à partager?
Un conseil? Ce serait d'avoir le goût de la beauté, je dirais. Pour moi, la beauté, ça englobe la nature, le miel, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, c'est une notion complexe, la beauté. Mais
voilà. Donc c'est la beauté qui sauvera le monde.
Ben oui, on voudrait bien que... mais non pas qu'il finisse en beauté, mais que la beauté le permette de régénérer le goût qu'on a, je dirais, de la vérité, c'est-à-dire de l'intégrité, de la qualité, de tous ces mots. Et je ne sais pas si on est sur la bonne voie. Moi, j'observe plutôt la dégradation de l'utopie que je cultive.
Merci, Maurice.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.